accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Réduire les déficits publics, atteindre le Graal européen, la fameuse barre des 3%. Pas de chance pour la France, c'est encore raté pour 2015. Selon les prévisions de la Commission, Paris devrait dépasser la limite et terminer péniblement l'année prochaine avec un déficit à 3,4%. Bien, mais peut mieux faire. Partout en Europe, les bons élèves de la rigueur s'activent. Un exemple parmi d'autres, dans le domaine culturel, l'État slovène a mis en vente de nombreux bâtiments. 6 châteaux sont sur le marché cette année. À une heure de la capitale, Ljubljana, près de Novo Mesto, un grand groupe privé espère bien rafler la mise en devenant propriétaire d'un vaste château médiéval. Visite avec Laurent Berthaud.
Un château de cartes postales, entouré d'eau, avec ses murs d'enceinte crénelés, ses donjons et sa lourde porte en bois. Nous sommes au château d'Otočec, tout près de Novo Mesto. Tomas Golob en est le conservateur.
Ce château date du milieu du XIIIe siècle. C'est le seul château de Slovénie sur une île. Son premier propriétaire était bavarois. On trouve trace des différentes époques dans ce château, notamment les fortifications construites au XVIe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été incendié, comme de très nombreux autres châteaux du pays. C'est l'un des rares à avoir été rénové après la guerre par l'État, en même temps que la construction de l'autoroute, juste à côté. D'ailleurs, le bureau des ingénieurs était installé ici. Puis c'est la société Kurka qui a pris le relais dans les années 70.
Kurka, une société privée cotée en bourse, propriétaire de thermes et d'établissements de loisirs réputés dans la région et gérante de ce château transformé en hôtel de luxe. Il fait d'ailleurs partie des relais châteaux français. C'est Adela Papesch qui nous accueille.
Notre château, c'est un hôtel 5 étoiles avec 16 chambres. Nous sommes connus pour notre restaurant gourmet, pour les chambres très jolies et pour la tranquillité. Joie de vivre, non, sur l'île.
La société Kurka n'a pas ménagé ses efforts pour transformer le château en hôtel médiéval de luxe. Son directeur général, Jože Berus.
Nous gérons ce château depuis plus de 30 ans. C'est notre société qui l'a entièrement restauré et qui l'a entretenu tout ce temps. On a même dû tirer une ligne électrique jusque sur l'île. La dernière rénovation remonte à 2007. On a refait toute l'électricité, la plomberie et on a même fait installer l'air conditionné dans les chambres, etc.
Et pourtant, vous n'êtes pas propriétaire de ce château, alors comment ça se passe? Vous payez un loyer à l'État?
On a passé un accord avec le ministère de la Culture et on espère bien régler cette question de la propriété rapidement, à condition que l'État nous offre des conditions d'achat avantageuses. On n'achètera pas à n'importe quel prix, car on a investi énormément et il va de soi que ces dépenses devront être prises en compte lorsque le prix de vente sera calculé.
Si comme nous sommes un château, on va prendre la méthode médiévale par l'escalier.
Mais sans armure.
Sans armure, oui.
Kurka et l'État espèrent bien boucler la vente cette année, sans qu'on puisse avoir une estimation du montant pour l'instant. L'État qui, en attendant, peine à vendre ses autres châteaux, ce que reconnaît Metka Smrdel, en charge de la vente de ce patrimoine au ministère de la Culture.
On a bien noté quelques signes d'intérêt, mais depuis qu'on a mis nos châteaux en vente il y a 2 ans, on en a vendu un seul, celui de Sotska, le plus petit, d'où son prix très bas. On l'a vendu 230 000 euros. C'est une entreprise proche du château qui l'a acheté. Mais c'est le seul qu'on a vendu.
Car s'il est tentant de se porter acquéreur d'un château médiéval pour le prix d'une belle maison, les exigences de l'État peuvent en refroidir plus d'un.
Oui, le nouveau propriétaire doit procéder à une restauration du château car la plupart des bâtiments sont dans un mauvais état. Donc il doit consacrer beaucoup d'argent aux travaux et c'est souvent ce qui arrête les acheteurs potentiels. Il y a aussi un calendrier à respecter pour réaliser les travaux. L'acheteur doit aussi améliorer l'accès du public au château. Et si par exemple le lieu est transformé en hôtel, le propriétaire devra laisser certaines zones en accès libre, comme le parc, le hall d'accueil. Bon, pas les chambres, bien sûr. Enfin, l'utilisation du lieu doit être cohérente avec le caractère historique du monument. Par exemple, on ne va pas ouvrir un atelier de mécanique dans ce genre de propriété.
À Otočec, c'est le conservateur Thomas Golob qui a donné son feu vert aux différents travaux de rénovation. Un exemple trop rare de préservation du patrimoine, regrette-t-il.
C'est bien, mais on a un problème de mentalité en Slovénie, car posséder un château n'est pas prestigieux. Ça s'explique par l'histoire du pays. Au XIXe siècle, l'aristocratie ne réussissait déjà plus à entretenir ses châteaux. Elle a commencé à les vendre à des bourgeois ou à des industriels. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les biens ont été nationalisés, la bourgeoisie a disparu et le socialisme a gommé cette culture des châtelains. Ce qui explique qu'aujourd'hui encore, si quelqu'un a envie d'acheter un château, il n'est pas soutenu par les autorités locales.
En attendant l'arrivée d'acheteurs étrangers, les prix demandés pour ces châteaux, souvent en mauvais état, baissent automatiquement de 15% tous les trimestres avant d'être réévalués. En 2 ans, le prestigieux château médiéval de Borle, perché au-dessus de la rivière Drava, avec son hôtel fermé depuis plus de 30 ans, est ainsi passé de 2,2 à 1,6 million d'euros, prix jugé encore trop élevé pour mener la vie de château.
Et si ça pouvait être une des solutions pour renflouer les caisses publiques ? En Italie, l'État confisque lentement mais sûrement les biens des mafieux condamnés. Et ce, en vertu d'une loi adoptée en 1982 sous l'impulsion de Pio La Torre, chef du parti communiste sicilien, assassiné peu après par Cosa Nostra. Le butin est loin d'être anecdotique. Fin 2013, l'ensemble des biens confisqués à la mafia représentait 40 milliards d'euros. L'État garde la main sur les liquidités, mais la gestion des propriétés est en revanche confiée à des associations et des coopératives. Redonner à la société ce qui lui a été pris, c'est le reportage de Mathilde Villain.
26 comptes bancaires, 2 stations-service, un casino, un gîte rural, 30 chevaux, un mouton et un âne. C'est le bilan de la dernière maxi-saisie en date dans le sud de l'Italie. En tout, 4 millions d'euros de biens ont été confisqués à un mafieux notoire. Dans ce cas-là, les avoirs sont gelés, mais que deviennent en revanche les terrains, les fermes, les entreprises ? Depuis 1996, une loi prévoit que l'État confie la gestion de ses propriétés à des associations. Objectif, restituer un bien commun au territoire et aux citoyens. Exemple, à Chiaiano, près de Scampia, en banlieue de Naples, au lieu du crime organisé rendu célèbre par le film Gomorra, 14 hectares de terrain ont été confiés à la communauté Resistenza Anticamorra et Ciro Corona, jeune médiateur social napolitain, a dû se convertir à l'agriculture.
C'est un bien confisqué à la Camorra il y a 13 ans, en 2011. Il appartenait au clan des Simeoli, un clan lié à la Cosa Nostra. Cette terre a été le refuge de Toto Riina, boss de la mafia sicilienne. Sur cette terre, les mafieux ont dissous des corps humains dans l'acide. Ils ont organisé des sommets avec les boss les plus importants. Aujourd'hui, ici, on produit des confitures et des jus de fruits, du vin blanc Falanghina AOC. On a monté une coopérative qui fait de l'insertion de mineurs à risque.
Sur les 14 hectares de la coopérative, les ouvriers agricoles sont des enfants de la Camorra, des jeunes arrachés au trafic de drogue pour travailler dans les champs, revaloriser la terre, donner une alternative aux nouvelles générations, mais surtout cultiver la légalité, vœux pieux ou vraie opportunité. Sima Coperillo ne ménage en tout cas aucun effort. Il anime une communauté de réinsertion de malades mentaux sur un bien confisqué à la Camorra, près de Caserte.
Aujourd'hui, on peut dire que la province de Caserte n'est pas la terre de Gomorra, qu'elle ne ne l'a jamais été, qu'elle ne lui a jamais appartenu. C'est en revanche la terre du peuple qui résiste. La terre du prêtre anti-mafia, Don Pepe, Diana, qui l'a payé de sa vie. La terre des victimes innocentes qui ont dit non au système mafieux et dont on ne parle pas. Et nous sommes retournés à la terre, nous cultivons des produits bio, on le fait en réseau, on vise la qualité, on doit revaloriser l'image locale après toutes les saletés que la Camorra nous a laissées. Et ainsi, on construit un épouvantail qui fait peur à la mafia.
Certains ont en effet payé l'engagement au prix de leur vie, comme Don Pepe Diana, ce prêtre né à Casal di Principe, bastion des clans de la Camorra. Il a été assassiné en 1994 dans la sacristie de l'église où il prêchait sans relâche contre la criminalité organisée. Résister à la Camorra, aux portes de Scampia, c'est aussi s'exposer à une menace constante, raconte Ciro Corona.
Les clans ne sont pas contents que nous gérions des biens confisqués. Le nôtre est le premier à Naples, le premier bien confisqué à être productif. Nous avons subi des intimidations et des menaces. La dernière en date, c'était quand nous avons trouvé un matin des tombes creusées sur le terrain, avec des croix et tout. On a simplement dédramatisé et on a ri. Ces intimidations ne nous feront pas partir. Il faut être prudent, mais si on a un réseau de soutien, ils comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à nous faire du mal.
Pour être moins vulnérable, il faut être plus visible. Et donc, pour valoriser leur engagement et leur travail sur les terres confisquées à la mafia, les différentes communautés se sont associées pour faire un panier anti-Camorra, une boîte de produits gastronomiques garantie sans mafia, commercialisée sur Internet. Explication de Simaco Perillo.
En cette période de crise internationale, c'est a priori plus facile pour les gens de se tourner vers ceux qui ont de l'argent. Et la Camorra en a beaucoup, grâce à l'économie souterraine, au trafic de drogue, à l'extorsion, même si de plus en plus de gens n'ont plus peur de porter plainte. Et donc on a pensé que ce panier anti-Camorra pourrait être une réponse à tout ça. Ce ne sont pas tant les produits qui comptent, mais l'idée, un projet culturel pour faire face à tout ce qui ne va pas en Italie. Notre idée, c'est ça, construire un panier garni d'environnement, de légalité, de travail et de droits du peuple, tout ce qui a été négligé au fil des années.
Ces oasis de légalité sur des terres contaminées par le crime vivent toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, menacés par les boss, menacés par certains politiques aussi, qui pensent qu'en temps de crise, l'État devrait remettre les biens confisqués sur le marché, au risque que les mafieux se réapproprient le bien et la terre qui va avec.
Ville moyenne finlandaise cherche réfugié en bonne santé. Enola, au sud de la Finlande, manque d'habitants. Le maire a donc trouvé la solution, demander à des réfugiés de s'installer sur son territoire. Dans un pays qui n'accueille que 700 réfugiés par an, l'initiative a surpris. Mais attention, elle n'est pas si politiquement correcte. En Finlande, Pauline Curté.
Timo Hiamaki, le maire centre-droit d'Enola, a-t-il réfléchi à sa proposition avant d'en faire l'annonce ? Vu son contenu, la question se pose. Voyant qu'il manquait une centaine d'habitants à sa ville, qui en compte environ 20 000, pour qu'elle puisse rester autonome dans la gestion des services municipaux, il a tout bonnement proposé d'inciter des réfugiés à venir s'y installer, histoire de faire le compte. Mais attention, a précisé le maire, il vaut mieux que ces réfugiés soient jeunes et en bonne santé, pour qu'ils n'occasionnent pas trop de dépenses pour la municipalité. Bien sûr, a-t-il ajouté, il aurait été préférable que ce soit des Finlandais qui viennent s'installer à Enola, mais vu les délais très courts pour faire augmenter le nombre d'habitants de la ville, les réfugiés restent la meilleure solution. Cerise sur le gâteau, Hiamaki a bien précisé que la démarche n'avait rien d'humanitaire. Le but, c'est d'aider Enola. Si cela permet à des réfugiés de vivre dans un environnement agréable, tant mieux pour eux. Évidemment, en Finlande, cette proposition, pour le moins maladroite, a beaucoup choqué. Dans tous les cas, la controverse aura eu au moins un mérite, celui de remettre la question de l'accueil des réfugiés sur la table des villes finlandaises, souvent peu enclines à y participer, et ce, alors que cette année, la Finlande a promis d'en accueillir 1000, dont la moitié viendra de Syrie.
« Faire table rase du passé, ou en tout cas se débarrasser des statues de l'époque communiste tchécoslovaque qui encombrent le centre-ville de Prague, c'était la règle suivie par la municipalité jusqu'à ce qu'un artiste décide que certaines méritent d'être sauvées, notamment pour leur valeur symbolique. À Prague, Alexis Rosenzweig.
Des enfants qui pataugent sur une forme ondulée en granit assez surprenante dans un coin d'une des grandes places des hauteurs de Prague. Cette étrange fontaine, installée en 81, a été baptisée Europe Unifiée. Elle est aujourd'hui en assez mauvais état et surtout menacée de disparaître de cette place qui doit être entièrement rénovée selon un plan âprement discuté au sein du conseil municipal du 3e arrondissement de la capitale tchèque. Cette fontaine fait partie des centaines d'œuvres érigées pendant la période de normalisation, environ 1800 en tout dans la ville, qui rappellent à de nombreuses personnes le passé totalitaire du pays et des heures sombres où l'art devait forcément servir l'idéologie du régime en place après l'écrasement du printemps de Prague. Pourtant, certains artistes contemporains s'emploient aujourd'hui à montrer que les œuvres sculptées à l'époque sont loin d'être toutes des apologies du communisme et qu'il faut s'employer à protéger des monuments qui ont une réelle valeur historique. Le jeune sculpteur Pavel Karaus a lancé dans ce sens un projet intitulé « Alien et Héron » en référence aux formes de cocons extraterrestres ou de volatiles fréquemment érigés pendant ces années 70 et 80. Il organise des visites guidées de Prague, lors desquelles il raconte l'histoire de ses ouvrages et de leurs auteurs, qui ont parfois pu continuer à survivre grâce à ces commandes d'État, alors qu'ils étaient interdits de toute autre forme de création. L'Institut national du patrimoine tchèque a fini par mettre en place une commission chargée de répertorier ce qui pouvait être encore sauvé, dans un contexte où, comme le regrette Pavel Karaus, l'anticommunisme exacerbé ne permet pas de discussion dépassionnée sur l'avenir de ces statues et autres plastiques, qui pourtant, précise-t-il, ne comportent aucune étoile rouge, ni marteau, ni faucille.
Music. C'est l'heure de la musique dans Accent d'Europe. On retrouve Vincent Teval.
C'est une star en Norvège, un peu moins dans le reste du monde. Et pourtant, Thomas Dybdahl mériterait une reconnaissance massive, tant son parcours depuis une décennie est tout simplement admirable. Il a débuté avec des albums de folk plutôt classiques, très influencés par Bob Dylan notamment, avant de laisser sa musique s'imprégner de soul ou de sons plus expérimentaux. Pour son 6e album, qui est joliment titré « What's Left is Forever », Thomas Dybdahl revient à un certain classicisme. Ses nouvelles chansons ont été en partie enregistrées à Los Angeles en compagnie du producteur Larry Klein, un collaborateur historique de Joni Mitchell. Elles sont inégales, mais certaines sont absolument sublimes, comme cette « Easy Tiger ».
Easy Tiger, there's a whole world to explore. Ain't no use in a key if you don't know what it's for. And it ain't easy if you don't know where it's at. And it ain't easy if you don't know where it's been. So make peace with the winding road. Some die young cause they try to hold on too long. Some days get tainted by a bitter taste. It ain't wasted if it's faced.
Accent d'Europe en mode estival avec les meilleurs reportages de l'émission, c'est tous les jours. Retrouvez-nous aussi sur notre site RFI.fr et sur Facebook.
People are strange and strange things happen to all. The waiting game is the hardest game of all. It's sometimes good folk go for the kill. No.
be good, take care and never look down. You never fall from the truth if the truth is all.